Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous parler pendant quelques minutes. J'ai le droit jusqu'à 60 minutes, mais peut-être que ce sera plus bref, on ne sait jamais. Comme Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, je vais essayer de ne pas vous achever quand même par mes propos. Donc, je suis chargé par Domi, la responsable du service diocésain de la catéchèse, par notre père Jean-Bernard Hayette, que je salue aussi et qui nous a introduit dans cette journée par la prière et qui est le délégué épiscopal à la catéchèse, de vous parler du thème qui a été retenu pour cette journée de catéchèse en fait, cette journée de rentrée des catéchistes. Et donc je suis heureux que vous soyez nombreux, prêtres, fidèles, consacrés ou laïcs, à participer à cette journée de rentrée, du thème du bon pasteur. Vous savez que c'est une expression, évidemment, que Jésus seul peut vraiment prononcer. « Je suis le bon pasteur », ce fameux chapitre 10 de saint Jean, qui est une expression qui est évidemment riche de sens, lourde aussi de conséquences, non seulement pour le Christ lui-même, à qui ce nom correspond parfaitement, mais aussi pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont participer à cette charge de bon pasteur, à commencer par les prêtres, qui sont configurés par le sacrement de l'ordre au Christ, tête et pasteur de l'Église, hein, comme nous le disons avec toute la tradition qui a été bien explicitée et rappelée dans le dernier Concile Vatican II. Mais aussi à tous ceux qui, comme dit le Code d'ordre canonique de manière très précise, sont appelés à participer à l'exercice de la charge pastorale. Par exemple, un chef d'établissement de l'enseignement catholique a la responsabilité pastorale de son établissement, par analogie et forcément en lien avec le Christ tête et pasteur, c'est-à-dire celui qui le représente, qui le rend présent, à savoir le prêtre. Mais aussi des catéchistes que vous êtes, ou des animateurs d'aumônerie, et dans bien d'autres dimensions de la pastorale, comme nous disons, et pastorale, ça vient effectivement de pasteur, berger, qui participent dans les paroisses, dans les communautés, par leur responsabilité à l'exercice de la charge pastorale. J'aimerais bien, pour en arriver à cette expression que Jésus emploie et qui l'est par identité, et même je dirais par identité divine, hein, « Je suis le bon pasteur ». J'aimerais vous dire comment, et vous le savez bien, mais on va faire un petit parcours dans l'Écriture sainte, comment cette expression et cette identité de Jésus, parce que c'est bien son identité d'être le bon pasteur, comment cela a une histoire et se réfère à l'histoire même du peuple d'Israël. Vous savez en effet que le peuple d'Israël est né d'abord de cette promesse de Dieu à Abraham, que nous appelons à juste titre notre père dans la foi. Puis ensuite, Abraham a eu un fils qui s'appelle Isaac, le fils de la promesse, en qui toutes les nations seront bénies et qui auront une descendance. Abraham aura une descendance plus nombreuse que les grains de sable sur le rivage de la mer ou que les étoiles dans le ciel. Ce fils de la promesse, dans lequel il va être tellement éprouvé parce que Dieu va lui demander même de le sacrifier. Et Abraham, figurez-vous, au contraire de nous, ne considère pas que Dieu est un monstre, alors que c'est tellement contre la promesse même qu'il lui a faite. Il croit, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que Dieu est capable de ressusciter les morts, et c'est pourquoi son fils lui sera rendu, et c'est pour nous un enseignement. Isaac a deux fils, Jacob, Ésaü et Jacob. C'est Jacob qui, par un subterfuge de sa mère, Rebecca, récupère le droit d'aînesse Et saint Augustin dira, ce n'est pas un mensonge, mais un mystère, non est mendacium sed mysterium. Et Jacob aura 12 fils, qu'il aura eu, comme vous savez, de manière un peu difficile, avec Léa, avec Rachel, avec même les servantes de l'une et de l'autre. 12 fils. Vous connaissez les noms des 12 fils de Jacob, en tout cas, on les entend régulièrement. Je pense à Lévi, ce sont les prêtres qui viennent de la tribu de Lévi, Judas, Jésus, par Joseph, qui est fils de David, est de la descendance de Judas, à travers David, qui est, qui est dans la descendance de Judas, etc. Les 12 fils qui vont être à la tête des 12 tribus d'Israël et qui vont commencer à constituer le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, le peuple élu, jusqu'à ce que Moïse soit choisi par Dieu comme la figure par excellence de Jésus, du Christ, pour donner à ce peuple les tables de la loi, les paroles de l'Alliance qu'il va sceller avec Moïse entre son peuple et lui. Donc tout ça, on connaît bien. Puis l'Exode et revenir dans la terre sainte que Dieu a donnée précisément à son peuple. Le peuple est régi, comme vous le savez, d'abord par des patriarches, Moïse, qui est le plus grand d'entre eux, et même le plus grand des prophètes, puis ensuite des juges, et enfin le peuple, qui est en contact déjà avec les nations païennes, voudrait, comme les autres nations, avoir un roi. Et Dieu, dans un premier temps, dit « Mais tu n'as pas besoin de roi, puisque c'est moi qui suis ton roi et ton Dieu. C'est moi qui règne sur mon peuple. C'est moi qui te conduis, tu n'as pas besoin d'un roi. » Et comme le peuple insiste pour en avoir, Dieu accède à cette demande, même si elle ne lui convient pas et elle ne lui plaît pas. Il lui donne un roi et il le prévient qu'il connaîtra bien des épreuves à travers ces rois qui sont toujours les représentants imparfaits du roi, le seul qui mérite d'être le roi de son peuple, c'est-à-dire Dieu. C'est là qu'on a le premier qui est Saül, mais qui déplaît finalement à Dieu pour l'avènement de David, le roi David. C'est important cette figure royale dans le peuple d'Israël, car c'est là que se dessine la figure du pasteur. Il n'est pas indifférent que celui que Dieu a choisi parmi les fils de Jessé, auquel il a envoyé le prophète Samuel pour oindre celui qui sera le véritable roi, le roi qui est la figure du roi Messie, qui est le Christ, qui est bien présenté comme le fils de David. C'est une expression très importante dans l'Évangile. C'est le dernier des fils auquel personne n'avait pensé. Tous les autres étaient grands, forts, beaux. Lui, il n'avait même pas été convié par son père à cette rencontre avec le prophète Samuel qui venait précisément pour discerner de la part de Dieu quel était celui qui devait être le roi d'Israël. Il était berger. Il était berger. Il était pasteur. Il était derrière son troupeau. Et Samuel lui dit, mais tu n'as pas un autre fils? Ben oui, il y a bien le huitième, mais il est en train de garder les champs pendant que nous sommes aux affaires avec toi. Va le chercher, nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il soit parmi nous, et c'est lui à qui Dieu demande de faire l'onction. Comprenez bien que la figure royale qui représente Dieu pour gouverner son peuple est un berger, est un pasteur. Il est comparé à un berger, à un pasteur. Sans doute, David sera un roi qui sera un chef de guerre, parce qu'un roi, c'est d'abord un chef de guerre. Mais il est un berger. Et on connaît bien cette figure du berger dans notre Pays basque, dans notre Béarn. Le berger qui a une relation tellement particulière, jusqu'à une affection avec ses brebis, qui porte sa brebis malade ou ses agneaux sur son cœur, comme dira le prophète Isaïe au chapitre 40, qui le porte sur les épaules, comme Jésus utilisera bien souvent cette figure dans les paraboles pour expliquer comment Dieu nous aime, comment Dieu prend soin de nous comme un berger, hein, quand on sait la relation très particulière du berger avec ses brebis dont il connaît les noms. Alors c'est sûr que maintenant, si on a un troupeau de 400 ou 500 brebis, c'est plus difficile de connaître leur nom chacun, mais il y a une connaissance intime qu'on va retrouver dans l'Évangile, dans ce que Jésus dit. Je suis le bon pasteur, le bon pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Ce verbe connaître, d'ailleurs, qu'il faut comprendre au sens biblique, pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance qui dit une relation d'amour, d'affection, de soin que l'on prend de ses brebis. David est donc un berger. Et tous les rois seront appelés à être les bergers du peuple d'Israël, même si ils seront bien souvent des mauvais bergers. Là, je vous lis un passage du prophète Jérémie, les prophètes qui sont envoyés précisément pour remettre le peuple d'Israël dans le droit chemin, dénoncer ses infidélités à l'Alliance, cette capacité que le peuple a de se détourner de Dieu pour les idoles. C'est notre histoire, hein ? C'est pas seulement une histoire ancienne, c'est mon histoire à moi que me détourner sans cesse de Dieu vers les idoles et d'être infidèle aux paroles de l'Alliance. Et en particulier, Dieu, à travers les prophètes, fustige les mauvais bergers d'Israël. Écoutez cela, au chapitre 23 de Jérémie. « Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage. Oracle de Yahvé, c'est pourquoi ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui ont à paître mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés et ne vous en êtes pas occupés. Eh bien, moi, je vais m'occuper de vous pour vos méfaits, oracle de Yahvé. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai dispersées et je les ramènerai dans leurs prairies. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les feront paître. Elles n'auront plus crainte ni terreur, aucune ne se perdra, oracle de Yahvé. » Vous voyez comment Dieu, d'une certaine manière, répond à son peuple, « Tu vois, tu as voulu des rois, mais tu te plains maintenant des rois que je t'ai donnés. Ils se sont trop assimilés aux rois des nations. Ils ont oublié qu'ils n'étaient que les lieutenants du vrai roi, du vrai pasteur, du vrai berger, qui est Dieu lui-même. Alors Dieu décide de reprendre la main. Et il dit, c'est lui-même qui ira chercher ses brebis dispersées. C'est lui-même qui va paître son troupeau. Et en même temps, il dit, je susciterai pour elle des pasteurs qui le feront paître. Hein, cette fameuse parole que nous connaissons bien en latin, qui est le titre même d'une exhortation apostolique post-synodale sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles de Saint Jean-Paul II, 1992, et qui s'appelle précisément Pastores Dabo Vobis. C'est pas du basque, c'est du latin. Ça veut dire je vous susciterai des pasteurs, je vous donnerai des pasteurs. Pastores Dabo Vobis. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Selon mon cœur. Vous voyez ? C'est le prophète Ézéchiel qui va développer ce que dit Jérémie, en même temps que Dieu lui-même sera le pasteur de son peuple et qu'il suscitera des pasteurs selon son cœur pour paître son troupeau en son nom. Au chapitre 34 du livre d'Ézéchiel. Alors là, c'est beaucoup plus développé que ce que dit Jérémie, et en particulier en forme de diatribe contre les mauvais bergers. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. « Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise. Tu leur diras, pasteur, ainsi parle le Seigneur Yahvé, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau ? Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives. » Soignez celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherchez celles qui étaient perdues. Peut-être que je peux m'arrêter là aussi et faire une petite parenthèse, mais nous prêtres, moi évêque, j'en prends plein mon grade. Et j'ai besoin d'entendre cette parole pour être sans cesse ramené à ma vocation qui est d'être signe du Christ, vrai et bon pasteur de l'Église, vous le savez bien. Mais nous prêtres aussi, nous sommes un peu dénoncés par ces paroles de Jésus. Est-ce que nous paissons vraiment notre troupeau, qui n'est pas notre troupeau, qui est le troupeau de Dieu, comme dirait saint Pierre? Ça n'est pas jamais notre troupeau. Ça ne sont jamais nos brebis que nous pourrions accaparer à notre personne, à nos idées, à nos désirs, pas toujours très honnêtes. Mais vous, qui êtes appelés à participer par votre responsabilité, en particulier de catéchiste, à participer à l'exercice de cette charge pastorale, vous êtes comme moi le premier. Parce que comme dit saint Paul, moi le premier, je suis pécheur. C'est une formule sans doute, mais qu'il s'agit que je fasse rentrer dans mon cœur. Mais nous tous, nous sommes un peu dénoncés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous fortifions les brebis chétives? Est-ce que nous soignons celles qui sont malades? Est-ce que nous pansons celles qui sont blessées? Est-ce que nous ramenons celles qui s'égarent? Est-ce que nous allons à la recherche de celles qui sont perdues? On dirait, on fait ce qu'on peut. Mais Dieu sait si les enfants qui viennent encore au catéchisme sont dans des situations bien difficiles et bien éprouvantes, qui ont des blessures dans leur famille, dans la société d'aujourd'hui, qui parfois s'égarent, sont perdus. Comment nous accueillons déjà celles qui viennent, les enfants qui viennent, hélas, de moins en moins nombreux? Je ne sais pas pour quelle raison, il y a quantité de raisons. Il y a sans doute les scandales dans l'Église, les mauvais bergers que nous sommes. Il y a aussi la sécularisation galopante. Il y a aussi le consumérisme dans lequel nous sommes, les enfants sont plongés. Il y a aussi la famille qui a un peu démissionné de ses responsabilités et qui ne joue plus son rôle de transmettre la foi, car qui sont les premiers bergers dans la famille? Ce sont les parents, c'est le père, c'est la mère. Eux aussi, il faut qu'ils entendent cette parole dure d'Ézéchiel. « Eh bien, pasteur, écoutez la parole de Yahvé. Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, je le jure, parce que mon troupeau est mis au pillage et devient la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne s'occupent pas de mon troupeau, parce que mes pasteurs se pèsent eux-mêmes, s'empêtrent mon troupeau. Eh bien, pasteur, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici, je leur reprendrai mon troupeau, et désormais je les empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi les pasteurs ne se pèteront plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, et je m'en occuperai comme un pasteur s'occupe de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparpillées. Je m'occuperai de mes brebis, je les retirerai de tous les lieux où elles furent dispersées, etc. etc. » Vous voyez, toujours cette annonce prophétique que c'est le Seigneur lui-même qui sera le pasteur de son peuple. Et en même temps, il suscitera des pasteurs selon son cœur qui continueront sa mission, mais en son nom, et avec sa force et son autorité à lui. Alors, on peut aller directement maintenant à l'évangile du bon pasteur que nous entendrons proclamer dans la liturgie de la messe aujourd'hui, chapitre 10 de saint Jean. Où Jésus révèle son identité de pasteur. Moi, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup? Il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je dépose ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Et c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Je m'arrête juste à l'expression que l'on connaît bien, et vous en savez bien la signification. Je suis le bon pasteur. Je suis en grec, dans la langue de Saint Jean, c'est « ego emi », qui traduit l'hébreu « Yahvé ». Je suis, c'est le nom même de Dieu, n'est-ce pas, par lequel il s'est révélé à Moïse, au buisson ardent, Exode 3,14. Je suis. Et quel est ton nom? Tu diras « Je suis m'a envoyé ». Je suis celui qui suis, ou je suis celui qui serai toujours avec vous. Et Jésus le redira, n'est-ce pas, au moment où il prendra congé des disciples, des apôtres, au jour de l'ascension, quand il montera au ciel, après les avoir envoyés pour enseigner les nations, baptiser les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprendre à garder les commandements qu'il leur a prescrits. Il ajoutera, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu, je suis le bon pasteur. Dieu est le bon pasteur. C'est lui qui accomplit en effet cette promesse que le prophète Ézéchiel, à la suite de Jérémie, vient de dire au peuple, c'est moi-même qui ramènerai et qui paîtrai mon troupeau. Je suis le bon pasteur. C'est en Jésus que Dieu accomplit cette prophétie. Parce que Jésus est Dieu. Il est donc bon pasteur par identité divine. Et en même temps, le souci de Jésus, ça a été de susciter des pasteurs pour son peuple, afin qu'il puisse le rendre présent au milieu de son peuple, quand bien même, après la mort et la résurrection, il est désormais assis à la gloire du Père, à la droite du Père, dans la gloire. Mais il continue. C'est un acte de foi que nous devons faire, n'est-ce pas ? Non mais vraiment, vous croyez que c'est vrai ça ? Quand on voit les curés que nous avons, ou l'évêque que nous avons ? Non mais, ça ne va pas. Et pourtant, oui. C'est notre croix. C'est notre croix. Parce que nous ne correspondons jamais assez, et vous avez raison de nous le dire, nous ne correspondons jamais assez avec notre identité par le sacrement de l'ordre, d'avoir été configuré, ontologiquement on dit, c'est-à-dire dans notre être le plus profond, au Christ, tête et pasteur de l'Église. Jésus a voulu que ce soit des hommes pécheurs, comme nous tous, comme vous, qui soient configurés au Christ, tête et pasteur de l'Église. Il a dit à Pierre, le renégat, à Judas qui était encore dans le groupe des douze, le traître, aux autres disciples qui l'ont tous abandonné, lorsque le pasteur précisément a été frappé et que les brebis se sont dispersés, comme disent les prophéties qui sont accomplies à l'heure de la Passion, il leur a dit, qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Il faut en faire des actes de foi dans l'Église pour comprendre ce grand mystère du Christ bon pasteur qui continue, lui qui est le bon pasteur parfait, à se rendre présent au milieu de nous à travers des prêtres qui ne sont pas des saints et qui ne sont pas parfaits. Et plutôt que de les critiquer, de les juger, de refuser de les écouter, est-ce qu'on ne devrait pas les aider davantage? Déjà par notre prière, par la correction fraternelle. Fraternelle. Je ne dis pas la correction qui consiste à stigmatiser ses frères en les jugeant et en les condamnant. Je parle de cette correction qui consiste à se dire les choses en vérité, mais pour gagner son frère, avec un a priori de bienveillance pour ceux que Jésus a choisi pour en faire les pasteurs de son peuple, qui mieux que Jésus peut nous corriger? Car pour nous corriger, s'il nous corrige, il nous considère tellement comme ses frères qu'il donne sa vie pour nous, afin que cette correction soit féconde. Quand je corrige mon frère, fut-il prêtre ou fut-il évêque, est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour lui, fraternellement? Mais ce que je vous dis pour les prêtres, c'est vrai pour nous tous. Chaque fois que nous participons à l'exercice de la charge pastorale, dans toutes les responsabilités que nous avons, comme père, comme mère, comme catéchiste, comme responsable de communauté, comme animateur d'aumônerie, comme chef d'établissement d'enseignement catholique, comme responsable de je ne sais quelle dimension ou secteur de la vie pastorale de ma paroisse. Alors Jésus, j'étais en train de vous dire, et je perds le fil, a eu le souci, dès le début de son ministère public, de susciter des pasteurs pour son peuple. Vous connaissez ce passage magnifique dans le chapitre 10 de saint Matthieu. On est à la fin du discours... Ah non, c'est le chapitre 9, pardon. Juste avant le discours apostolique. Chapitre 9 de saint Matthieu, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous voyez, on voit dans cette compassion du Christ, qui dira plus tard qu'il est le bon pasteur, n'est-ce pas, et qui utilisera si souvent pour se décrire et décrire la mission qui est la sienne, les paraboles qui mettent en œuvre, qui mettent en scène, pardon, des pasteurs, des bergers qui vont laisser 90 brebis justes dans le désert pour aller à la recherche de la brebis égarée. Comme disait saint François de Sales, une âme vaut un diocèse. Une âme vaut un diocèse et mérite que nous laissions là les justes ou les prétendus justes pour aller chercher la brebis égarée. Peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, la parabole ou la proportion pourrait être inversée. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut laisser la brebis juste pour aller chercher les 99 qui sont égarés, mais qu'importe, vous voyez. Eh bien, Jésus exprime là la plainte, la complainte, la colère sans doute de Dieu vis-à-vis de ces mauvais bergers d'Israël qui ont dispersé le troupeau et qui ne pèsent plus le troupeau de Dieu. Mais ce n'est pas une colère qui veut dire une condamnation et un jugement. C'est un cri. C'est le cri de Jésus sur la croix, qui donne sa vie pour justement rassembler toutes ces brebis qui sont dispersées. Ce grand cri et ces larmes qui sont les siennes sur la croix, c'est comme cela qu'il exprime cette colère de Dieu qui l'a détourné sur lui-même. Dieu, le cœur de Dieu s'est retourné contre lui-même, disait déjà le prophète Osée, c'est magnifique, et c'est en Jésus qu'il s'accomplit. C'est là qu'il exprime le plus sa complainte, sa compassion pour les brebis égarées qui sont sans berger. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, accomplissant la deuxième prophétie de Jérémie, qui dit « Je susciterai, c'est moi qui viendrai sauver mon peuple, mais je susciterai des bergers, des pasteurs selon mon cœur. À la vue des foules, il en eut pitié donc, car elles sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » C'est le commandement que Jésus donne à ses disciples pour obtenir des pasteurs selon son cœur. Donc des prêtres, pardon, hein, mais vous savez bien que j'insiste beaucoup dans le diocèse sur cette prière pour les vocations sacerdotales. Dans un pays, dans un diocèse de vieille chrétienté, où il y a tellement de bergers dans nos collines et dans nos montagnes, hein, du Béarn et du Pays Basque, qui a donné tant de pasteurs à son peuple. Nous sommes dans l'action de grâce quand il y a des prêtres qui viennent d'ailleurs, des prêtres missionnaires qui ont entendu cet appel à aller à la recherche des brebis égarées et qui savent bien eux-mêmes qu'ils sont égarés parce qu'ils sont pécheurs. Hein, vous avez compris que je ne suis pas en train de mettre le prêtre dans une niche. Mais moi, je suis dans l'action de grâce, alors qu'il y a des prêtres, des séminaristes qui vont devenir prêtres pour le diocèse, qui viennent d'ailleurs. Mais je me dis, nos communautés, nos familles, pourquoi ne suscitent-elles plus de bergers pour ce peuple quand il en a suscité tant, qui sont encore à la manœuvre aujourd'hui, parce que nos prêtres sont généreux jusqu'au bout, et que à 80 ans et plus, ils sont encore là pour rendre des services pastoraux dans nos paroisses jusqu'à s'essouffler complètement. C'est important, cette prière pour l'évocation dans un diocèse. Mais quand j'insiste sur l'évocation sacerdotale, je ne suis pas en train de dire que, ben alors il est laïque dans tout ça. Ben alors. Mais le prêtre, il est là pour être au service du plein déploiement de la grâce du baptême chez les fidèles, pour qu'ils participent pleinement au sacerdoce du Christ par la grâce de leur baptême. Ils ont besoin de prêtres pour être pleinement des adultes dans la foi, pour participer pleinement à l'exercice de la charge pastorale. Les fidèles ont besoin des prêtres. Vous savez bien que les prêtres et les laïcs, on les a trop vus parfois dans notre mentalité très imprégnée par une dialectique marxiste qui devrait avoir fait son temps, en termes de opposition, de tension, de concurrence de pouvoir. Le Concile a échappé complètement à cette dialectique. Il nous dit précisément le sacerdoce ministériel des prêtres et le sacerdoce commun des fidèles, quoique distincts non seulement de degré, mais d'essence, sont ordonnés mutuellement l'un à l'autre, dans une grande harmonie, dans une grande communion, où chacun est identifié, n'est pas interchangeable, car il y a une vocation propre pour chacun. Et pour que tous nous puissions exercer dignement et fécondement, avec fécondité, pardon, notre mission, notre participation à la charge pastorale des prêtres, il faut des prêtres qui soient bien identifiés et qui soient dans une harmonie fraternelle les uns avec les autres. Dieu demande, Jésus prie, nous demande de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et ici, lorsqu'il fait prier de cette manière-là, c'est pour envoyer des bergers, c'est pour envoyer des pasteurs à son peuple, afin que tous nous puissions participer à la charge du pasteur. Je regarde l'heure, ça va, oh, ça va. Je suis en retard. Saint Luc, chapitre 6, on voit que cette prière a été immédiatement efficace, car Jésus a joint le geste à la parole. Il ne s'est pas contenté de nous demander de prier, mais lui-même il a prié. Or il advint en ces jours-là, verset 12 du chapitre 6 de Saint Luc, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Voilà la réponse du Père à la prière du Fils sur la montagne, qui nous engage à sa suite à prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers pour sa moisson. C'est le choix des apôtres. Apôtre qui veut dire envoyé. Et vous savez qu'ici, le terme apôtre, qui est le nom, comme dit Saint Luc, il leur donna le nom d'apôtre, ça veut dire envoyé au même titre que lui est par excellence, comme on le voit souvent dans l'évangile de Saint Jean, l'envoyé du Père. Ce terme d'apôtre envoyé, qui s'applique ici particulièrement à ceux qu'il a institués apôtres, comme dira saint Marc dans un passage parallèle, voyez, pour être lieutenant, celui qui tient lieu, qui tient la place du Christ, bon pasteur de son peuple. Enfin, je voudrais ajouter une petite chose. Vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, il y a trois figures essentielles qui constituent, j'allais dire, qui construisent le peuple d'Israël, qui constituent les instruments de Dieu pour construire et guider son peuple. Il y a la figure du prophète, celui qui parle au nom de Dieu, qui réveille le peuple endormi, qui le ramène, parfois avec des actions très dures, hein, à Dieu dont il s'est détourné, comme on l'a dit tout à l'heure, par ses infidélités. Il y a la figure du prêtre, celui qui offre le sacrifice. Dans toutes les religions, le prêtre, c'est celui qui offre des sacrifices à Dieu pour obtenir des dons de la part de Dieu et qui va communiquer ces dons aux hommes. Il y a une double médiation. Le prêtre, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dira de manière admirable. Et il représente le peuple devant Dieu, il offre dons et sacrifices, comme dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et il communique les dons de Dieu aux hommes, la loi et la grâce, on dira nous aujourd'hui. Le prêtre, qui est dominé dans l'Ancien Testament par la figure d'Aaron, le frère de Moïse, qui est précisément le prêtre, quand Moïse est plutôt le prophète et le patriarche qui guide son peuple. Ensuite, parmi les 12 fils de Jacob, celui qui n'aura pas de terre où s'installer, dont le lot ou la terre sera le Seigneur lui-même, c'est Lévi. Et ceux qui perpétuent le sacerdoce d'Aaron, eh bien, ce sont les fils de Lévi. On les appelle les Lévites, n'est-ce pas ? C'est eux qui offrent dons et sacrifices à Dieu et qui communiquent les dons aux hommes, la bénédiction de Dieu aux hommes, au peuple. Donc, il y a le prêtre et la figure d'Aaron qui domine le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Et puis, la troisième figure, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le roi pasteur de son peuple. Au nom de Dieu, c'est lui qui est chargé de conduire son peuple. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, pour ceux qui disent le bréviaire, depuis deux jours, nous lisons les petits prophètes du VIe siècle avant Jésus-Christ. Après le retour de l'exil à Babylone, qui a duré 70 ans, et on lit les petits prophètes âgés, Zacharie, bientôt ce sera Malachie, dans cette semaine, qui est la 28e semaine du temps ordinaire. Et c'est très particulier, on voit ces trois figures. Agé, c'est le prophète qui est envoyé, au roi qui est Darius à ce moment-là, mais à travers son gouverneur de Juda qui est Zorobabel, et puis le prêtre s'appelle Josué, pas le Josué du temps de Moïse, mais Josué après l'exil, vous voyez. Il y a le prophète, le roi et le prêtre, et ils sont appelés à agir en symbiose. Ils se contrôlent mutuellement. Ils agissent ensemble. Eh bien, ces trois figures qui structurent d'une certaine manière l'autorité du peuple d'Israël sont réunies en un seul, qui est Jésus-Christ. Il s'est présenté d'abord comme un prophète. Il prêche. Il dit même, lorsqu'on le retrouve dans sa retraite, alors qu'il a échappé à la surveillance des siens, un soir de sabbat, où il a guéri pas mal de malades qu'on lui a amenés, et on en a fait venir de partout, de tout le littoral, de la mer de Galilée. Lui, avant le lever du jour, il s'est retiré dans un lieu désert pour prier. Quand Pierre voit qu'il a disparu, il s'inquiète, il le recherche. Et quand il le trouve dans son lieu retiré, il lui dit « Mais tout le monde te cherche. On amenait bien d'autres malades qui attendent de toi une parole de guérison, un geste de guérison. Et Jésus leur dit quoi ? Allons plutôt dans les autres villes et villages pour annoncer l'évangile du royaume des cieux. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus est d'abord le prophète, à tel point que quand il parle et qu'il prêche, tout le monde dit « le grand prophète s'est levé parmi nous ». Si en Judée, en Samarie, on appelait le Christ le Messie, Christ, Messie, chez les Galiléens, le Messie, on l'appelait le prophète, le grand prophète. Jésus est d'abord le prophète de la parole. Puis ensuite, il va se présenter comme le pasteur, le berger d'Israël. On l'a vu à travers les quelques pages d'Écriture. Et enfin, il se présente comme le prêtre, le grand prêtre par excellence. Il consomme sa mission de prophète et de pasteur à travers l'exercice de son sacerdoce, dans lequel il est à la fois le prêtre et la victime. Il se substitue à toutes les victimes de l'Ancienne Alliance, qui n'étaient que des victimes de substitution, les agneaux que l'on égorgeait et que l'on immolait. Ils disent « Ce pain que je donnerai » dans le chapitre 6 de Saint Jean, « c'est ma chair donnée, livrée pour la vie du monde. » Le sacrifice de Christ qui nous sauve, dont il est le grand prêtre, qui est établi définitivement cette alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et le peuple. Les trois figures dans ce testament, dont le prêtre qui est Jésus. Voyez. Et ces trois figures, ces trois fonctions plus exactement, eh bien, il les transmet au prêtre de la Nouvelle Alliance. Le prêtre, a tria munera, comme vous le savez, c'est le Concile Vatican II qui a justement bien précisé cette unité entre les trois fonctions du Christ qui sont données au prêtre par sa configuration au Christ, tête et pasteur de l'Église. Il enseigne, il sanctifie par les sacrements, et en particulier, il célèbre la messe, l'Eucharistie, in persona Christi, dans la personne même du Christ, et il gouverne, il conduit la portion du peuple de Dieu qui lui a été donnée comme un bon pasteur, pas comme un pasteur, comme un potentat. L'autorité qu'il donne à ses apôtres, il le dit bien, ne ressemble pas à celle exercée par les grands de ce monde, qui dominent, qui font sentir leur pouvoir, et qui exercent leur domination sur les autres, et comme un serviteur. Il y aura beaucoup de choses à dire encore, mais je vais me perdre en vous disant tout ça, mais le berger, et on le chante souvent dans la prière pénitentielle, c'est celui qui devient agneau, qui s'offre en sacrifice. Vous voyez ? Le roi qui devient serviteur. Le Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors par analogie, et c'est là que je conclurai, par analogie, vous catéchistes, vous animateurs d'aumônerie, vous responsables de communauté, vous êtes appelés à participer à cette charge du pasteur et donc à vous imprégner de ce que dit Jésus dans le chapitre 10 de Saint Jean. Très important pour vous, laïcs, qui n'êtes pas configurés au Christ pasteur par le baptême. Vous participez à l'exercice de la charge pastorale d'un prêtre. Donc, il faut qu'il y ait une grande communion entre le curé de la paroisse, les prêtres chargés de la catéchèse dans leur paroisse, et les fidèles laïcs qui sont associés à cette charge. Il faut qu'il y ait une grande communion et une grande intimité. C'est très important, sinon nous ne sommes pas pasteurs à la manière du Christ, car c'est lui qui fait la communion de notre fonction de catéchiste, de notre fonction de pasteur et de prêtre. Vous voyez ? Très important. Et, comme dit Jésus, le bon pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Je vous ai dit tout à l'heure que ça ne veut pas dire seulement une connaissance intellectuelle, mais j'imagine quand même que vous savez bien, sans intrusion sans doute. Il faut être très très délicat dans ce domaine. Sans intrusion dans la vie des enfants même qui vous sont confiés. Mais il faut que vous les connaissiez. Et les connaître, c'est les aimer. Les aimer avec une mesure, qui est bien claire, surtout aujourd'hui, on le sait. Les aimer avec beaucoup de mesure, mais les aimer, prendre soin d'eux, connaître leur environnement, avoir un contact avec leurs parents, même si c'est souvent difficile, parce que les parents, c'est des pauses minutes, comme à l'aéroport. On dépose l'enfant et puis on vient le rechercher, éventuellement, on le fait même attendre. Et je ne le reproche pas. Mais c'est très important que vous ayez un contact avec les parents, que vous les rencontriez pour connaître l'environnement, le lieu où ces enfants grandissent, quelles sont aussi leurs blessures, leurs difficultés, ce qui leur manque, pour pouvoir mieux ajuster votre rôle de catéchiste, pour leur transmettre évidemment la connaissance de Jésus, qui seul est le bon pasteur. Mais ça veut dire aussi, Jésus ajoute, le bon pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent, comme je connais le Père, et que le Père me connaît. Vous voyez ? Ça veut dire que Jésus puise dans son intimité avec le Père la légitimité et la fécondité de sa charge de pasteur qui connaît ses brebis. Pour vous, c'est important, non seulement cette communion entre prêtres et catéchistes, ça veut dire que les prêtres, même si je sais combien leur charge est de plus en plus lourde, le catéchisme, c'est une priorité. C'est une priorité. Le premier catéchiste de sa paroisse, c'est le curé. Il ne peut pas seulement déléguer. Parce que c'est dans la communion, je vous l'ai déjà dit, entre le sacerdoce ministériel des prêtres et le sacerdoce commun des fidèles, que Jésus continue de paître son troupeau et de s'occuper, de prendre soin de ses brebis. Voilà. Mais il faut aussi qu'il y ait une grande intimité du catéchiste et du prêtre avec le bon pasteur qu'est le Christ. Vous ne pouvez pas accepter une charge comme celle-là si vous ne vous engagez pas vous-même dans une très grande intimité avec lui. Ce n'est pas seulement l'écoute de la parole qui est très importante pour vous. Je crois que cet après-midi, il y aura un atelier Lectio Divina, parce que les brebis écoutent la voix du bon pasteur. Elles écoutent ma voix et elles me suivent. La voix, comment elle atteint les enfants aujourd'hui ? Par votre voix. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez des auditeurs de la parole de Dieu, que vous soyez très intime de la parole de Dieu, qui est vraiment une, comme dirait le pape François dans son exhortation à Maurice Laetitia, il dit, la parole de Dieu, c'est notre compagne de voyage. C'est une compagne de voyage. C'est Dieu lui-même, à travers sa parole, qui nous accompagne, qui éclaire notre histoire, qui nous guide dans les obscurités et les ténèbres de notre vie. Et l'Eucharistie. Ne me dites pas qu'un catéchiste n'est pas quelqu'un qui fréquente habituellement Jésus dans l'Eucharistie, d'abord à la messe dominicale, ça c'est le béaba, mais aussi dans l'adoration eucharistique, dans ce cœur à cœur avec lui. Je ne connais pas non, suffisamment, et je ne sais pas quelles sont vos pratiques, donc ne vous sentez pas visé, mais entendez quand même, entendez. Le pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, où est-ce que j'apprends à donner ma vie pour mes brebis quand je suis prêtre ou catéchiste ? Dans le lieu qui rend présent ce don que Jésus fait de lui-même et qu'il nous communique. Vous avez entendu l'évangile de dimanche dernier sur les 10 lépreux qui ont été purifiés par le Christ. Combien reviennent pour rendre grâce et adorer celui qui est la source de leur purification et de leur guérison ? Et Jésus s'en étonne, il dit, ben, les 9 autres où sont-ils ? Ils n'ont pas aussi été purifiés ? Ils n'ont pas été aussi guéris ? Pourquoi l'Église insiste tant sur l'Eucharistie dominicale ? Parce que nous avons besoin de rendre grâce pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Peu à peu, si nous ne sommes plus fidèles à la messe dominicale, nous finissons par croire que tout nous est dû. Nous finissons par croire que c'est nous qui sommes les propres artisans de notre salut, de notre guérison, de ce que nous faisons. Nous mettons en premier ce que nous faisons avant ce que Dieu fait dans notre vie. Et nous prenons conscience de ce qu'il fait dans notre vie pour en témoigner auprès de ceux auxquels nous sommes envoyés, dans ce lieu par excellence de l'action de grâce, Eucharistie, ça veut dire action de grâce, ce lieu par excellence d'adoration, où nous reconnaissons que c'est Dieu l'auteur de tous nos bienfaits, et nous pouvons en témoigner auprès des autres. C'est très important, ça. Je le redis, pour vous, ce sont des évidences, je le sais, mais c'est très important de se le redire sans cesse, pour donner du sens. On dit, la messe de Michel, c'est un précepte. Vous savez comment je dis toujours ? La messe dominicale, ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité vitale. C'est une nécessité vitale pour pouvoir être vraiment les témoins du bon pasteur, là où je suis envoyé. Et enfin, je termine avec une très belle image du pape François, qui devrait être vraiment très suggestive pour nous, évêques ou prêtres, mais aussi pour vous. Il dit « Le bon pasteur, c'est celui qui se tient devant pour montrer le cap. N'ayez pas peur de montrer le cap, même si le cap n'est pas cohérent avec le monde qui nous indique d'autres caps. Mais nous, nous avons un cap qui nous a été donné par le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre vérité exhaustive. Il n'y a pas d'autre vie en plénitude que le Christ, qui est le chemin qui nous y conduit. Donc, n'ayez pas peur de montrer le cap. Beaucoup disent, moi je suis catéchisé par les enfants. C'est bien, et c'est vrai, que Dieu parle à travers tous. Quand un enfant écoute la parole de Dieu, et que vous faites ce petit exercice de faire une petite lectio divine avec les enfants, à leur mesure, ils vont vous dire des choses de la part de Dieu qui sont très profondes, et qui vont aussi vous évangéliser. Mais vous êtes chargé de leur transmettre la foi. Vous êtes chargé de leur montrer le cap qu'ils ne peuvent pas inventer. Parce que Dieu a dû se révéler pour que nous connaissions son mystère. Il dit ensuite, pape François, il faut que le pasteur soit aussi au milieu de ses brebis. Pour sentir l'odeur de ses brebis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais, le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et enfin, il dit, il faut que le bon pasteur soit derrière le troupeau à certains moments, pour suivre le flair de l'Esprit-Saint qui est aussi dans le troupeau, mais aussi pour aider celui qui est un peu retardataire à ne pas rester sur le bord du chemin et marcher un peu à son rythme pour qu'il puisse rejoindre le bercail où il va célébrer cette communion avec Dieu et avec les autres. Je m'arrête là. Merci.